quartier
de vie.
Une émission proposée par
Résonance Sonore.
C'est quoi ton meilleur souvenir dans ce quartier, si t'en as?
Mais j'en ai plein. Je pense en vrai les fois où mes tournages, c'est des souvenirs de ouf parce que bah, ils marquent le début d'un truc et que peut-être je ne retournerai jamais ici, j'en sais rien, tu vois, mais je crois qu'il y a un peu un deuil dans ce sens-là à faire. Et que du coup, quoi qu'il arrive, c'est là que je suis née comme réalisatrice. Et ça, c'est un souvenir de ouf, tu vois. C'est-à-dire que je peux dire je suis née à cet endroit-là. Et cet endroit, c'est ni les Saves, ni Paris. Et ça, c'est beau. C'est la rainerie. Je m'appelle Myriam Baya Harfaoui. J'ai 31 ans. J'ai vécu entre la Tunisie et la France. La Tunisie, où j'ai grandi à Jindouba, une ville, un petit bassin de la frontière algérienne. Et Toulouse, où j'ai principalement grandi en Palo. Mais pas que, parce que j'ai un peu tourné dans tous les quartiers de Toulouse.
Cet escalier, ben là, les portes, c'est la soupe. Okay. Et l'escalier devant, c'est là où a été tourné mon premier court-métrage. C'était cette barre-là.
J'ai atterri dans une asso de quartier à la Rainerie qui s'appelle Défi Production, qui propose un parcours d'accompagnement à la réalisation. Et j'ai bénéficié de ce dispositif dans le cadre duquel j'ai réalisé un premier court-métrage qui s'appelle Les Crapules. Et puis, j'ai fait des rencontres et plusieurs copines m'ont envoyé un message en parlant d'un concours Arte qui s'appelle Et pourtant elle tourne, qui visait à mettre en avant les réalisatrices et qui proposait de réaliser un court documentaire de 12 minutes max sur le thème besoin de personne. Et moi, j'y croyais pas trop. Et au bout du 10e message, je me dis, bon, en fait, vas-y, on va le faire. En fait, il n'y a rien à perdre, tu vois. Dans l'association, il y a le matériel, tu viens de faire un premier film. Au pire, c'est rien, tu vois, c'est un lien que t'envoies, c'est pas grave, fais, et on verra après. La thématique, c'était besoin de personne, mettre en avant les réalisatrices. Et moi, j'étais là, ok. Donc, c'est quoi la place des meufs de quartier dans le paysage féministe français, dans le paysage cinématographique français? C'est quoi nos voix? Moi, j'ai qui comme modèle en réalisation, en actrice, en technicienne ou quoi? On n'existe pas énormément à plein d'endroits. Et du coup, j'ai voulu faire un film en partant de la base de, en fait, nous aussi on existe, nous aussi on a une proposition, nous aussi on a des histoires à raconter, nous aussi on a du savoir-faire, et en plus qui dépend pas forcément de formation scolaire. On a une pratique innée, on a des choses innées, ou alors des choses, tu vois, c'est comme dans mon taf d'assistante réelle, à chaque fois je dis j'ai pas fait de formation, mais en fait je suis la sœur aînée de 6 enfants, donc en fait je sais gérer. Je viens d'une famille pauvre, de quartier populaire, d'origine maghrébine. Je suis l'aînée. Il y a un peu tous les espoirs de la famille qui étaient... Enfin, tous les espoirs, en tout cas, de gros espoirs qui étaient mis sur moi et sur cette idée un peu reçue et cultivée et démentie depuis, je pense, de faire des études pour avoir un bon travail. Et puis, c'est ça qui va nous sortir un peu de notre misère sociale, etc., etc. Du coup... Moi, j'étais très forte à l'école. J'ai tout le temps été première de la classe et j'ai tout le temps réussi dans tout ce que j'entreprenais, parce qu'il y avait un peu ce truc de il n'y a pas le droit à l'échec, pas le droit à l'erreur. Il faut être meilleur que les autres, en faire 2, 3, 4 fois, 5 plus que les autres. Il faut vraiment y arriver 1000 fois mieux.
Une fois, je marchais en Palou dans mon quartier avec ma grand-mère. Et en Palou, c'est un quartier qui a énormément changé. Enfin, vraiment... Énormément changé, on appelle la gentrification. Et ma grand-mère, elle me disait, nous les vieux, on est tous en train de partir, il reste que de la poussière et personne ne va se souvenir de nous. Du coup, je pense que cette phrase, elle s'est inscrite dans ma tête et qu'il y a un truc chez moi qui résonne avec ce travail de mémoire à faire et cette volonté de ne pas laisser disparaître des endroits de vie où il y a, je sais pas, des cinquantaines de familles qui ont vécu là et que moi j'ai envie de raconter leur histoire. Consoler ma grand-mère avec cette idée de non, tu vois, on vous oubliera pas, on va pas oublier. Et messager et une des barres, du coup là où j'ai tourné, une des premières barres vous a disparaître là à la Rainerie, qui va bientôt être détruite. Et du coup, pour moi c'était important de l'inscrire dans un film que je faisais ici, au moins pour qu'il y ait des images qui restent. Par exemple, moi, les bâtiments où j'ai grandi en Palo, j'ai plus aucune image d'eux. Et je me dis, putain, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait des films qui soient faits ou des clips pour pouvoir juste re-regarder les bâtiments et pour pouvoir m'en ressouvenir. Et du coup, je pense que c'est un peu ce truc-là qui essaie de faire. Et j'ai choisi celui en fonction aussi parce que esthétiquement, il me paraissait beau et que donc, je sais pas, j'avais envie. Enfin, j'ai eu l'instinct de vouloir tourner ici. Mais c'est principalement lié à cette structure-là.
La Rainerie, c'est à la fois, franchement, à chaque fois je le dis, c'est l'endroit en France qui m'a le mieux accueilli au monde, l'endroit d'où je venais pas qui m'a le mieux accueilli. J'y ai noué des liens très forts avec des gens. Mine de rien, maintenant, moi, dans ma tête, mon parcours cinéma, c'est la Rainerie. Je veux dire, c'est là où j'ai fait mes premiers films, c'est là où j'ai appris, c'est là où j'ai rencontré des gens, c'est là où je travaille. Et du coup, il y a un peu ce truc de... Ouais, c'est comme on pourrait dire, un quartier d'adoption, il y a un truc de... Il représentait énormément pour moi, pour tout ce qu'il a fait, ce quartier, que tous les autres endroits en France que j'ai visités n'ont pas fait.
Quand j'étais plus jeune, j'habitais à la Cité du Parc, juste en face là-bas. Et de ma fenêtre, on voyait la Rainerie. Mais la Rainerie, c'était vraiment le mastodon... Tiens, on va passer par là-bas. Le mastodon hyper lointain, genre c'était un peu le pays des merveilles pour moi. Il y avait un truc de... ça me paraissait... c'était comme New York pour quelqu'un, tu vois.
Genre, pourquoi le pays des merveilles?
Mais parce que ouais, c'est ça, c'était genre le quartier, le plus gros quartier, ça me faisait rêver, il paraissait. Et maintenant je sais que c'est vrai qu'il y avait un lac, un château, enfin il y avait un peu un truc quand même très conte quand on parle de la Rainerie. Et peut-être que j'aurais pu, si j'avais grandi normalement, rêver à aller habiter au Carme en centre-ville, mais moi, il y avait un truc de je sais pas, ce quartier, il paraissait ouf. Il paraissait incroyable. Et je le trouve incroyable encore aujourd'hui.
Je pense que je filme aussi la Rainerie, parce que la Rainerie, elle m'apprend aussi à moi comment je regarde le monde et qu'est-ce qui recourt de l'inconscient maintenant. Ça, tu vois, et c'est plein de choses que je réalise là, un an après avoir fait le film, tu vois.
Elle est majoritairement vide. Genre, si vous regardez bien, les fenêtres sont soit cassées, soit ouvertes. Ils ont délogé beaucoup de personnes d'ici. Je crois qu'il reste quelques propriétaires qui refusent de vendre leur appart au rabais, qui résistent et qui veulent pas partir. Mais pour autant, l'endroit est pas du tout entretenu. Puis on veut rentrer, c'est un dégât à l'intérieur. Il y avait pas mal de personnes qui squattaient aussi, des personnes sans papier qui avaient trouvé que cet endroit-là pour pouvoir avoir un minimum de dignité et qui ont été délogées. Je crois que c'était un matin, je sais pas, franchement, une trentaine de camions qui sont venus tout sortir d'un coup. En 2 heures de temps, c'était bouclé et je crois que ça m'a rendu méga triste et que ça me rend encore super triste. Et voilà.
Je fais la révolution comme je pense une femme de ménage qui se lève tous les matins avec toute la résilience du monde pour nettoyer un pays pour qu'il soit propre pour tous les autres qui vont travailler. Si ça fait de la révolution au quotidien, comme la sœur qui défend le frère enfermé, incarcéré, fait la révolution au quotidien, comme toutes celles et ceux qui rapportent des histoires qu'ils entendent dans la rue ou je sais pas, tu vois, un petit qui va croiser un SDF, qui va parler de lui à sa mère, son père ou j'en sais rien, tu vois, il fait la révolution parce que pour moi, faire la révolution, c'est sortir les choses du silence, les mettre en lumière, leur mettre le feu à des endroits. Et moi, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire avec le cinéma, que je ferai par plein d'autres biais parce que vraiment, il n'y a pas que le cinéma, tu vois, moi j'aime écrire, j'aime faire de la radio, j'aime juste taper des foot et c'est très bien, tu vois. Et de toute manière, j'imagine pas une vie sans révolution.
Mais tous les soirs, je rentre chez moi un palo. Et chez moi un palo, c'est déjà... Enfin, je veux dire, tous les souvenirs que j'ai avec mon grand-père, avec ma grand-mère, ça n'existe plus, tu vois. Les bancs vont s'asseoir, les jeux où on allait jouer, ils sont pas. Les endroits où j'ai fait mes premiers temps de vélo, ça n'existe plus. À la place de quoi, il y a la pharmacie avec écrit « quartier du stadium », c'est un peu le quartier d'un palo. Bah si, ça fait mal, parce que je pense que quand on est un quartier populaire, on est confronté à un truc... terrible, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme d'être enterré vivant, c'est que tu te regardes mourir parce que tu regardes tes souvenirs se faire défoncer et s'effondrer devant toi. Genre à l'échelle d'une vie, on est capable de plus avoir de mémoire spatiale de notre passage, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc rude pour vivre, pour des êtres humains. D'habitude, ça met 70 ans, 100 ans à se régénérer, tu vois. Là, en 20 ans...
Je pense dans les splendides, j'ai voulu asseoir quelque chose, dire un truc, cracher une colère, avoir ma place. J'ai monté une équipe de 95% de meufs et qu'en fait, bah ouais, entre meufs et personnes minorisées, on peut tenir un plateau, tu vois. Quand tu montes dans le cinéma, t'as de moins en moins de meufs, hein, surtout en chef de poste et de personnes minorisées, etc. Mais en fait, on peut faire des films, tu vois. Et cette force vive, elle est là, elle existe. Moi, je crois beaucoup au fait de se réapproprier les formes classiques, notamment dans le cinéma. Tu vois, là, dans Les Splendides, ce que j'ai imaginé, c'est un clip documentaire. Parce qu'en fait, l'adresse, je crois, quand j'écris un film, quand je le réalise, elle m'importe plus que tout le reste. Tu vois, genre, j'ai pas envie de faire un truc que les gens dont je parle ou à qui j'ai envie de parler ne comprennent pas. Ça sert à rien. J'ai pas envie de faire un truc scolaire. Le temps, c'est le truc le plus précieux qu'on ait. C'est-à-dire, si je te donne 12 minutes de mon temps, en fait, me le fais pas perdre, me fais pas me sentir con, j'ai pas envie de sortir. Enfin, je trouve ça injuste, tu vois. Le rapport de pouvoir, il est inversé à cet endroit-là. Et pour moi, spectateur, spectatrice, c'est primordial, l'adresse, et de pas prendre les gens pour des cons, des invités à une salle où ils me donnent la chose la plus précieuse qui soit, c'est leur temps. Et ben, j'ai envie qu'ils me comprennent. Enfin, pas d'être quelque chose d'insaisissable, parce que c'est pas vrai, tu vois. Pour moi, le cinéma, c'est pas d'être le plus incompréhensible au monde, c'est tout l'inverse. C'est d'être le plus simple et le plus efficace pour dire des choses simples. De manière poétique et belle, tu vois, point. Il y a deux choses à faire. Premièrement, c'est faire entrer le maximum de personnes avec moi à l'intérieur de ça. Deuxièmement, créer nos propres espaces, là, de préférence à Toulouse, dans le sud-ouest, loin de Paris, et puis arriver à fabriquer autre chose, quoi. Je pense que ça a été une des... C'est bizarre à dire, mais une des choses les plus compliquées à encaisser, l'obtention de ce prix. Déjà, quand on m'a appelé pour me le dire, j'y ai pas cru. Et du coup, il y avait ça, il y avait ce prix, il y avait mon travail ici à l'asso. Enfin, tout d'un coup, ça a fait le strict inverse. C'est, ah mon Dieu, c'est pas j'ai gagné ma légitimité ou je sais pas quoi. C'était plus... Est-ce que les gens sont sûrs? Est-ce qu'ils se sont pas trompés? Est-ce qu'on va... Enfin, vraiment, moi, j'ai dit aux personnes d'Arte, pendant un moment, je pensais qu'on allait me rappeler pour me dire « Désolé, on s'est trompé de ligne ». Enfin, tu vois, il y a un truc tellement incroyable à l'intérieur de ça. Et je pense que j'ai pas réussi à m'en réjouir, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup appris à se réjouir des choses un peu chouettes qui nous arrivaient, que tout de suite, les premières questions qui sont venues à mon esprit, c'était... C'était « Bah, vas-y, c'est bien. Moi, mon nom, il est sur Arte, mais celui des autres... » Moi, je crois pas à la réussite individuelle. Je crois pas que j'ai gagné parce que j'ai mérité de gagner. Je crois que j'ai gagné parce qu'on a gagné, parce qu'il y avait un travail collectif derrière, un truc qui était porté. Peut-être que j'ai été le chef d'orchestre de ça, et tant mieux, tu vois. C'est ma manière de vouloir agir socialement et dans le monde. Mais je pense que ouais, ma première réaction, ça a été une peur vraiment très très forte de l'individualisation du processus. Chose qui s'est passée, parce que forcément, ben, c'est le prénom du réel qu'on retient, et que la personne, en toute honnêteté, qui récolte le plus les retombées de tout ça, bah ben, clairement, c'est moi. C'est moi qui me suis retrouvée avec des producteurs, productrices qui voulaient travailler avec moi, c'est moi qui me suis retrouvée à des projections, c'est moi tout le temps. Et ça a été très compliqué d'être centrée à un moment donné. Déjà de me dire, putain, maintenant je vais me la sentir de me dire réalisatrice, alors qu'en fait, tranquille, j'ai fait deux films, j'y suis pas encore, quoi. Pour moi, j'ai encore du mal à le dire. à mesure qu'on fait des films, on fait des deuils de première fois, de deuxième fois. Enfin, là, je vivrai plus jamais une première fois de cinéma. Et je pense que c'est déjà un deuil énorme à faire, parce que ça veut dire que tout ce que je vais faire après, il ne va pas y avoir la même innocence à l'intérieur, tu vois. C'est comme un premier amour. Oui. Tu passes à une phase de deuil comme une acceptation. Ça y est, maintenant, on est dedans.
C'était Splendide, une pièce sonore réalisée par Mathias Guilbault et Agnès Gontier.
Quartier
de vie.
Retrouvez son podcast sur
www.resonance-sonore.fr.